Donc bonjour, je suis Sylvain Marchand, je suis professeur d'informatique à l'Université de La Rochelle, mais pas seulement, vous allez voir. Merci beaucoup pour cette journée aux organisateurs, au GDR Iasis et puis au PEPR Ricard. Je suis membre du laboratoire Images, Informatique et Interaction et même directeur adjoint, donc le L3I. Et je vais vous parler d'une petite niche, je pense, dans le domaine de l'archéologie, que sont les monnaies anciennes. Et qu'est-ce que c'est que ces nouvelles représentations, évidemment, à parler d'images. Donc déjà, les monnaies anciennes, ça devrait être un objet d'étude très intéressant, normalement, parce que ça couvre 2700 ans de notre histoire. C'est né quelque part en Asie mineure, là, vous voyez, la Turquie actuelle, dans une zone où on ne sait pas exactement, mais là, le petit point rouge de Google Maps, c'est la ville de Sardes. Et là-dedans, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le Pactole. Et dedans, il y avait des petites billes d'électrum, alliage naturel d'or et d'argent. Et puis, ils ont eu l'idée, vers 7e siècle avant Jésus-Christ, on va dire, de frapper des bouts de métal avec une effigie. Et là, par exemple, vous avez une monnaie d'or d'un roi qui a gardé, dont on se rappelle bien son nom, Crésus, qui a trouvé le premier système pour séparer l'or et l'argent. Et puis maintenant, vous voyez, il y avait des monnaies d'or, des monnaies d'argent, puis après des monnaies de bronze. Et ces métaux sont toujours importants maintenant. Peut-être que vous avez encore des pièces de monnaie dans vos poches. Peut-être que ça ne va pas durer très longtemps. Mais bon, la fabrication, pendant longtemps, elle a duré de manière artisanale, avec des frappes au marteau, un flanc métallique. Et puis on chauffait plus ou moins. Et puis on imprimait à l'aide de coins monétaires un grand coup de masse, et puis sur ce flanc métallique, on mettait l'impression d'une image à l'avers et revers. Ça a duré longtemps comme ça, après ça s'est modernisé, mais bon, pour les monnaies anciennes, c'était ça. Mais du coup, il y a des problématiques et des spécificités. Déjà, on a affaire à des objets quasiment plats. Et il y en a d'autres dans le cadre du patrimoine, mais j'ai dit que je ne parlerai que de cette petite niche archéologique que sont les monnaies. C'est issu d'empreintes de matrices, les coins, et pour les monnaies, ces matrices ont disparu. Contrairement aux sceaux qui ont été conservés, les coins étaient sacrés, étaient détruits après l'utilisation, et on en a très 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 peu qui parviennent jusqu'à nous. Par contre, les monnaies, on en a beaucoup. Ce sont des objets métalliques, sensibles aux conditions d'éclairage, et en plus, ce sont des objets tout petits. Et du coup, les musées souvent ont ça, mais sont bien embêtés pour les afficher, parce que comparé à une grande statue ou à un tableau, comment on affiche ces choses dans des vitrines et en plus, il faut les protéger. Donc, je ne suis pas que professeur d'informatique, je suis aussi numismate. Alors, les numismates sont des gens qui étudient les monnaies. Il y a des archéologues qui s'intéressent à ça, puisque les monnaies sont des marqueurs spatio-temporels d'échanges économiques à travers les peuples. Bon. Les musées s'y intéressent aussi, parce que finalement, surtout les monnaies anciennes, les monnaies grecques, il y avait des graveurs réputés, ce sont des petites œuvres d'art que vous pouvez avoir en vitrine, dans vos poches. Et ce sont des documents historiques aussi. Souvent, les monnaies romaines, au revers, il y a la propagande impériale et il y a des événements historiques qui sont relatés dessus ou des monuments qui ont disparu ou qui se sont altérés dans le temps. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent aux collections, alors que ce soit les collections publiques des musées, évidemment, mais il y a aussi des collections privées. Et il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui sont dans les collections privées. Et là, c'est tout un problème. Puisqu'on s'intéresse à l'histoire, à l'art et aussi, alors c'est pas un gros mot, mais à la valeur des choses. Et bon, moi il se trouve, je suis professeur d'informatique, j'ai été vice-président d'une société d'archéologie à Bordeaux, j'ai travaillé avec des musées et je connais bien le monde des collectionneurs aussi. Donc bon, souvent ces choses ne se mélangent pas comme l'huile et le vinaigre, mais moi j'arrive à jouer un peu avec tout ça. Donc les problématiques, pourquoi acquérir des données de monnaie ? Déjà, comment ? Au départ, on n'avait que la description textuelle des choses, parce qu'on n'avait pas inventé de méthode pour reproduire les images. Ensuite, il y a eu la gravure, sur bois, sur métal, avec l'apparition de l'imprimerie, l'impression. Après, on a eu des photographies, d'abord noir et blanc, après niveau de gris, après photographie couleur. Bon, maintenant, la tendance, c'est d'utiliser des vidéos, où des gens avec leurs gros doigts manipulent des images devant une... Et puis d'autres pourraient me dire, mais on n'a qu'à tout scanner en 3D. Est-ce que c'est vraiment utile la 3D pour des objets qui ne sont pas en 3D ? Ce sont des objets qui sont en 2D et demi, en fait. Il n'y a pas de trou à l'intérieur de l'objet. Ça a été frappé par un système, encore une fois, de matrice. Donc c'est en 2D et demi, on va dire. Et puis pourquoi faire ? Donc pour représenter, d'accord, mais aussi peut-être pour identifier. Donc identifier la monnaie, Oui. Identifier le coin monétaire, la matrice, ça c'est plus important pour les archéologues parce que bon, comme ça on peut faire des études de trésors et refaire la chronologie de frappe d'un atelier par exemple. Voilà. Alors la reconnaissance manuelle, par un stagiaire de master qui va passer des mois, enfin là, des années à étudier le trésor, avec, en comparant deux à deux des images, bon courage, ou reconnaissance automatique. Donc évidemment on va plutôt vers ça maintenant. Donc le transparent central de ma présentation, c'est ça, en fait. Donc, vous avez en bas à droite un objet de D&MI. Alors, son image en noir et blanc, en niveau de gris. Il se trouve que c'est un décadragme de Syracuse conservé au British Museum, mais bon. Comment on fait pour avoir une représentation? Alors, ce que nous, on propose, c'est de faire une prise de vue avec l'appareil photo fixe et les sources de lumière variables. Donc, ça, c'est très classique aussi. On n'a pas besoin de beaucoup de positions. Donc, en fait, on a besoin de 8. Avec 8 photos, ça suffit largement pour faire tout ce qu'on va faire après. Avec ça, on construit deux choses, des cartes d'orientation et des cartes d'énergie. Donc, en gros, la carte d'énergie ressemble beaucoup, enfin, là, j'ai mis les couleurs au normal. Et la carte d'orientation, on va dire aux élèves. Oui, alors j'ai inversé. Carte d'énergie, c'est en haut, carte d'orientation, c'est en bas. Donc la carte d'énergie ressemble un petit peu à la carte d'élévation et puis la carte d'orientation un petit peu au normal. Mais ce n'est pas exactement ça. Donc ça a été publié en 2018. Et qu'est-ce qu'on en a fait? De la reconnaissance automatique en transposant la méthode Shazam, qui j'espère vous connaissez pour l'audio. Et c'est une méthode qu'on peut transposer à l'image, soit en se basant sur les contours. Donc c'était un article de 2021, mais ça marche bien en théorie et en pratique assez mal. Ou en se basant sur les textures, ça c'était en 2024, et ça marche bien en pratique. Mais on comprend un peu moins la théorie. On est plus dans l'IA, non explicable. Et aussi, on peut faire de la visualisation interactive avec ces nouvelles données. Alors si vous regardez un petit peu, c'est pour ça que j'ai besoin de passer sur mon Mac et à distance, j'espère que vous pouvez suivre aussi, mais... En tout cas, ceux qui sont dans la salle devraient voir en bas à droite la fameuse monnaie de D&MI qui va s'animer en fonction du pointeur souris. Et en fait, parce que ce n'est pas une image, en fait, c'est le modèle carte d'orientation plus carte d'énergie qui permet de régénérer l'image comme si on déplaçait la source lumineuse. Et pourtant, ce n'est pas un modèle 3D, ce n'est pas du RTI, mais on n'en est pas loin. Donc l'acquisition, comment faire pour les monnaies? Alors évidemment, la méthode traditionnelle, c'est un appareil photo, vue orthonormale, les sources de lumière, un peu plus professionnelles que ça, mais c'est de la photographie classique, c'est très long, très compliqué. Il faut manipuler une monnaie, la retourner, et il faut faire ça pour 500 000 monnaies, et en une semaine. Courage. On n'y arriverait pas. Donc, après le DOM RTI, c'est mieux pour la qualité des images, mais ça génère beaucoup de données. C'est encore plus compliqué à manipuler, parce qu'en plus, il faut soulever le DOM pour mettre la monnaie en dessous. Donc ça peut être compliqué. Il y a des systèmes beaucoup plus légers. Ça, c'est un mini DOM RTI avec des LED donc, qu'on utilise nous. Mais en fait, on va vers un système beaucoup, beaucoup plus léger. Mais là, j'avoue que si ça vous intéresse ce domaine et s'il y a moyen d'aider un peu le financement, on va dire le système encore plus léger, c'est une bête vitre avec des LED à l'intérieur. On pose l'objet dessus, ça scanne automatiquement et on passe au suivant. Mais il faut un petit peu d'aide pour arriver à la finalisation du système. Donc le nouveau modèle, en fait, mathématique, même si j'en ai pas mis beaucoup, là par contre, je n'ai pas inversé l'énergie et l'orientation. À partir des images de réflectance, on va dire, on peut récupérer les deux cartes qui m'intéressent, en fait, et qui sont le nouveau modèle. Au début, on l'a utilisé pour faire rendre plus robuste des méthodes comme le recalage d'images et des choses comme ça. Mais très vite, on est passé dans l'identification des coins ou des monnaies. Donc la méthode utilisée maintenant par les collectionneurs, hein, désolé pour les... Ici, on est dans un musée, mais c'est de mettre ça avec des experts après scellés dans des boîtes et avec des codes-barres. Bon, du coup, on identifie la boîte et l'objet qui est enfermé à l'intérieur, mais c'est ça qu'un expert a regardé et après mis une boîte et a référencé ça dans une base de données. OK. Une autre technique, c'est de le faire automatiquement, donc à partir du nouveau modèle. Et là, par exemple, vous avez chaque ligne correspond à une requête. Le début de la ligne, c'était ce qu'on a demandé. Et les carrés rouges, en fait, c'est ce qu'il fallait trouver dans la base de données qu'on avait. En fait, c'était un ensemble de monnaies où on avait plusieurs coins. Et la troisième ligne est particulièrement intéressante parce qu'il a retrouvé quatre coins qui sont les mêmes, en fait. Donc, quatre exemplaires dans la base de données dont les coins proviennent de la même matrice. Donc en fait, on est pas mal, sauf pour la ligne 2 où il y a le résultat n'est pas la bonne, c'est le deuxième qui est la bonne. Donc on arrive à retrouver assez automatiquement les coins monétaires. Il y a aussi la visualisation interactive. Donc les gens maintenant sont passés en vidéo. Ce que je vous disais, donc ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans la partie gauche. Quelqu'un manipule, alors là avec des gants, une monnaie, là, de la fin de la République romaine, retourne, voilà. A-t-on vraiment besoin de la 3D ? Et a-t-on vraiment besoin des doigts des gens pour voir ces choses-là ? Après, il y a une autre technique. Donc par exemple, les modèles à base de polynômes, donc issus de RTI, qui permettent de faire, encore une fois, la visualisation plus interactive. Mais alors là, le volume de données est assez grand. Et nous, ce qu'on proposait, du coup, c'est des volumes de données tout petits qui permettent de faire à peu près la même chose, même si le réalisme métallique est moins bon pour l'instant, mais ça peut changer. Et donc, je vais finir. Enfin, je vais faire très court, je vais tenir le temps, je pense. Et en fait, voilà, je ne vous ai pas montré en fait, vraiment le système, parce que les deux points importants, je ne vous les ai pas montrés, mais c'est pour engendrer des discussions avec les gens qui seraient intéressés. Déjà, on voudrait que et on peut le faire, que cette nouvelle représentation soit rétrocompatible avec les images classiques. C'est-à-dire que quelqu'un récupère une image, croit que c'est une image, et c'est plus qu'une image, parce que le modèle est tatoué à l'intérieur de l'image. Et donc, on peut rendre la monnaie interactive et l'utiliser pour l'étude des coins, l'identification automatique de l'objet, ou la visualisation, du coup. Donc, en fait, pas besoin d'avoir un nouveau format. C'est un format d'image standard, mais à l'intérieur, on met le nouveau modèle. Et donc ça, je ne vous ai pas montré comment le faire, mais je sais le faire. Ensuite, le nouveau système d'acquisition, il n'est pas finalisé. Mais maintenant, je commence à avoir une bonne expertise. Donc, on parlait du long terme pour la recherche. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ça. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, avec des financements faibles et variables, on va dire. Et puis, j'ai changé 3 fois d'établissement. Finalement, j'étais 10 ans à l'université de Bordeaux, 4 ans à l'université de Brest. Maintenant, ça fait 10 ans à l'université de La Rochelle. Et je maintiens un peu cette activité en pointillé, vous voyez, et ça ressurgit, même si ce n'est pas mon activité de recherche principale, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut un nouveau système d'acquisition simple, portable, transportable. Vous voyez, le mini-système, c'était pour que ça rentre dans un bagage cabine d'avion, mais le nouveau système, ça serait pour que des gens dans les musées, les archéologues, où le grand public puisse numériser les monnaies sans avoir à cliquer, même ne serait-ce que donner des ordres à un logiciel. Et on pose la monnaie, le système maintenant est assez grand pour savoir que la monnaie vient de changer, qu'elle est posée, il en prend l'acquisition et il transfère le résultat et on retourne et ça recommence. Donc, vous voyez, et on remet la même monnaie et dit ben, je l'ai déjà. Donc vous voyez, les systèmes maintenant, ils disent non, je la reconnais, c'est déjà elle. Donc vous voyez, on n'est pas loin de ça, il reste un petit delta. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'arrive pas trop tard ? C'est-à-dire, est-ce que les modèles 3D de tous les objets ne se généralisent pas ? A-t-on vraiment besoin des modèles 3D dans ce cas-là ? Et est-ce que les objets historiques, archéologiques que sont les monnaies sont encore intéressants pour les gens des communautés hors informatique ? Voilà, tout ça, c'est des questions que je vous pose. Alors, je ne sais pas si vous en avez, vous, à me poser. Voilà. Mais en tout cas, merci de votre attention.
Merci. Merci beaucoup. Donc, tu fais tout le travail pour moi, c'est parfait. Est-ce que vous avez donc des questions ?
Oui, une question pour la question de l'utilité de la 3D qui se pose même pour un tableau qui est en 2D. En fait, c'est à un moment, si on veut pouvoir le projeter dans un espace virtuel, il faut avoir sa 3D, parce que projeter une image dans un espace virtuel, en termes d'expérience, ça fonctionne pas. Donc ça dépend aussi de l'usage que l'on souhaite faire de ce modèle 3D. Ensuite, il y a la question de la mise à l'échelle. Est-ce que métriquement, les données acquises sont utilisables ? Donc ça, c'est effectivement... Et ensuite, effectivement, la nécessité, elle dépend du besoin. Mais en termes de démarche patrimoniale, le calage entre les deux faces de vos... Et dans les monnaies, il peut y avoir un décalage entre les deux faces. Donc le fait de savoir comment les deux articulent implique qu'il y ait une forme de calage ou de géoréférencement en 3D, en tout cas. Plus des réflexions.
Mais... Oui, mais en fait, il y a beaucoup de remarques, beaucoup de questions très importantes dans la question. Et donc, oui, la mise à l'échelle, tout ça, évidemment, c'est scientifiquement mesuré. Donc là, je montre des choses pour faire joli, on va dire, mais on peut mesurer. Le lien entre les axes, entre le revers et l'avers, on le détermine automatiquement sur les monnaies anciennes, ça marche très bien, elles ne sont pas rondes. Donc on y arrive. Avec les acquisitions, on n'a pas besoin de ça. Et après, la projection dans un espace 3D, mais même un tableau du coup qui est en 2D, on ne va pas le projeter en 3D, ça va être une surface.
Non, justement, quand on veut faire une vraie expérience de tableau, il y a les expériences de Van Gogh par exemple. Pour avoir
il faut approcher, d'accord,
pour voir les modèles de très très bonne résolution, okay, ouais. Pour aussi que la lumière, si on met un tableau dans un espace 3D et qu'on fait une lumière virtuelle dessus, c'est horrible, tout est à plat. Alors que
Mon cas précis, c'est pas de la 3D, mais c'est pas de la 2D. On est quelque chose qui peut se définir par une surface d'élévation, et donc ça peut se projeter. Après, voilà. Mais mon problème est plus général quand je me promène dans les musées. À part les musées spécialisés, enfin les collections spécialisées où on accède à des médaillés, souvent c'est derrière une vitrine, c'est trop loin, on n'y voit rien, surtout avec l'âge, on y voit de moins en moins. Et c'est peu éclairé, c'est derrière une grande vitre, c'est protégé, c'est pas... Voilà, mais il y a vraiment un problème de muséographie pour des objets qui sont potentiellement très importants, quelquefois.
Mais d'un point de vue de recherche, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a des choses à explorer... Dans ICAR, il y a deux appels à projets par an sur peut-être que ça peut s'envisager. Nous, on ne peut pas présager de l'accord, mais en tout cas, ça peut valoir la peine de le regarder. Et on nous, au musée, un autre projet justement sur un dispositif d'acquisition qui est en cours de création autour des collections du Mas d'Asile, justement, parce que cette question d'acquisition in situ et le projet dont je parlais avec INRIA à Bordeaux.
Oui, je connais Manao, mais je me suis un peu éloigné. Voilà. Je connais le musée d'Aquitaine, j'y serai à la fin du mois.
Et là, il y a justement l'idée aussi.
Et je connais le trésor de Taillac. Pour les torques, je ne peux rien faire. Non, mais pour les monnaies, ça m'intéresse.
Ça en fait 400,
après, c'est des monnaies gauloises, elles sont plus qu'en 2,5. Oui.
Tout à fait. C'est spécial. Mais voilà, il y aurait plein de choses à faire.
Merci pour la présentation. Pour rebondir un petit peu, je ne vais pas revendre la stéréophotométrie, mais elle permet donc d'avoir la carte des normales qui peut correspondre un peu à ce que vous avez comme résultat. Et donc c'est aussi un rendu en 2,5, mais avec les réseaux d'apprentissage aussi, en stéréophotométrie, on peut commencer à partir de 3 images. Bon, autour des 12. Mais avec les réseaux par apprentissage, on peut aussi récupérer tout ce qui est lié à l'apparence des matériaux, notamment pour se rapprocher un peu de la RTI, la roughness, etc. Sur l'automatisation, il y a le projet européen, Automata, sur justement la manipulation des pièces, la numérisation, et faire l'inventaire numérique sur une seule chaîne de traitement. Et sur l'outil de numérisation portatif, il y avait tout le travail d'Yvain Keo, qui est dans le GDR IASIS, notamment sur le travail en dermatologie. Je crois que c'est PicScience. Donc c'est un appareil tout en un. Ça ressemble un petit peu à un sèche-cheveux. On a une dizaine de LED calibrées, donc positionnées dans l'espace. On a le diagramme de rayonnement, etc. On le positionne sur la peau et on obtient directement un modèle 3D avec l'intégration des normales et aussi le rendu de la peau sur des pistes.
Pas bête du tout la technique sèche-cheveux, j'avais pas pensé à ça, mais bonne idée, on met dessus. Ben voilà, j'ai des gens avec qui discuter.
Très bien, merci.
Merci à vous.